quoi? De chanter?
Non.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadhoubouni.
Bonjour à tous.
Nora Mzaoui, Tom Villa, bonjour. Daniel Morin, Psyano et Charles Ornac. Et bonjour. Nos invités sont Catherine Fro et Olivier Gourmet. Merci mille fois de venir tous les deux. Je suis ouvertement déclaré fan numéro un de Catherine Fro et d'Olivier Gourmet. Fan déjà indépendamment l'un de l'autre et fan quand ils sont encore plus ensemble dans un film qui s'appelle Sage Femme. Merci d'être là. En tout cas, vous voyez, je l'ai dit avant vous, Olivier. Merci mille fois d'être là. Tom, vous avez bien compris pourquoi on les avait invités, parce que chaque fois j'ai peur.
Je préfère vous prévenir, Nagui, déjà, il est hors de question que je fasse la moindre blague à Catherine Fro. Voilà, c'est l'actrice préférée de ma maman. Je pense qu'elle est même au-dessus de vous en tant que fan.
Non, moi d'abord.
On peut l'appeler, je pense qu'il y a match. Déjà j'ai fait un jeu de mots au Marcy fin novembre, elle m'a fait la gueule jusqu'à Noël. Donc là, c'est fini ces conneries. Donc ravi de vous voir Catherine et Olivier. Voilà.
Bonjour.
Voilà. Au revoir. Merci.
Non, mais on peut peut-être trouver un autre sujet, je sais pas. Non, vous
c'est
comptez
très très court.
Déjà vous rassurez-nous, vous ne comptez pas partir. Non, je sais pas, c'est pas.
Tout dépend de ce qui va se passer par la suite.
Oui, non, parce que je demande ça parce que c'est à la mode en ce moment de quitter le plateau de télé et de radio après Jean-Frédéric Poisson, Robert Ménard ce week-end. Ce fut Nicolas Dupont-Aignan qui a quitté le plateau du 20h de TF1. Car comme ce monsieur n'est pas invité ce soir au débat des candidats à l'élection présidentielle, donc par conséquent qu'il n'aura pas le pouvoir de s'exprimer, il a été invité au JT pour s'exprimer, mais il a expliqué qu'il préférait ne pas s'exprimer pour mieux se faire entendre. Super idée, non mais c'est en gros, non mais on le comprend, c'est un peu comme quand t'es invité à un mariage, sauf que t'es pas invité au dîner, mais qu'au au vin d'honneur, tu vois, t'y vas, tu fais la gueule, et tu dis, y en a marre que ça soit toujours les mêmes qui fassent la fête, si c'est comme ça, je me barre, tu pètes un verre et tu pars, voilà, c'est, et là, forcément, tu dis, putain, il était énervé le curé. Donc, non mais voilà, pourquoi pas, après tout, donc voilà, je préfère vous demander, Catherine et Olivier, parce que voilà, le meilleur moyen de faire le buzz ces derniers temps, c'est de ne pas parler et de partir, même si parfois on aurait bien aimé que certains invités nous fassent une Dupont-Aignan, hein, mais dans votre cas, je vous le dis très trivialement, ça nous ferait chier parce qu'on vous aime, voilà. Donc vous venez ce matin pour le film Sage Femme, qui fait partie de ces films où votre métier tient dans le titre du film, Catherine, comme la tourneuse de page. Bon alors, vous n'avez pas joué dans Le Convoyeur ou Taxi, mais ça tient dedans. Le pitch, c'est une sage-femme qui rencontre un routier dans un jardin ouvrier. Alors dit comme ça, ça fait un peu Jackie et Michel, mais quand c'est
non.
vous... Non, mais quand c'est vous non. et réalisé par Martin Provost, c'est le film France Inter par excellence, et surtout le nœud du problème, c'est que vous, Catherine, votre personnage voit ressurgir du passé la maîtresse de votre papa, qui n'est autre que Catherine Deneuve. Voilà, on se dit, bah, putain, il s'emmerde pas, le papa. Catherine Deneuve, qui est une joueuse de Marseillaise. C'est une sorte de poker pour les escrocs, donc le nom est bien trouvé. Donc, on va pas tout dévoiler, juste, dans le film, tous les accouchements qu'on va voir sont de vrais accouchements. Je crois que vous allez peut-être en parler, Nagui. Donc, tous les nouveau-nés sont des vrais nouveau-nés. Et donc, voilà, tous ces petits êtres. La première chose qu'ils ont vue dans votre existence, c'est vous, Catherine, et une équipe de 50 intermittents qui attendent la pause déj. Donc je sais pas si j'ai tout compris, Nagui, mais si non. vous aimez les gens qui restent en plateau, et ben c'est une très bonne nouvelle parce que Catherine et Olivier et ben sont avec nous ce matin.
Absolument pour ça, je parle.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Je crois en effet que c'est la première fois. Enfin, je pondérerai un tout petit peu. Je ne pense pas que toutes les naissances soient réelles, mais en tout cas les deux premières, oui, dans le film. Après,
il y en a 3-4 en fait. Mais c'est surtout ça concerne surtout le début du film. Voilà. Hein, c'est vraiment les 10 minutes, un quart d'heure du début où on est. C'est cru. C'est la vérité d'un accouchement tel quel. Ça ressemble presque à un documentaire, sauf que c'est moi la sage-femme. Mais bon, c'est pas vraiment du jeu d'actrice, hein. C'est une expérience à part.
Hein. Ben oui, mais ça doit être justement. Marquant, non?
Ah oui, c'est tellement
c'est
fou
bouleversant.
Que j'ai dû me mettre un rideau quand même devant moi pour oublier toutes les sensations, toutes les émotions. Hein. J'ai appris les gestes et j'ai très très consciencieusement, j'aime bien faire ça. J'ai fait les gestes qu'il fallait et ça a été. Mais il fallait que je sois froide à l'intérieur quand même.
C'est formidable. Donc vous pouvez dire que vous avez mis au monde plusieurs enfants sans
cinq.
En être la maman.
Cinq. Et les parents étaient préparés, tout
oui,
ça, c'était
courant,
tout une affaire.
Mais
oui, mais...
C'était trop
froid. Non, mais c'était assez unique, quoi. Je sais pas quoi. Ouais. C'est difficile même d'en parler, hein, pour tout vous dire. C'est difficile, c'est tout et rien à la fois, mais voilà.
En tout cas, c'est vrai que ça nous plonge dans un réalisme.
Au début
du film, on se dit tout, d'ailleurs, hein, que ce soit dans la photo, dans la rigueur de votre jeu, la vérité de ce jeu, la vérité. Véritable naissance, on se dit là, ils l'ont pas inventé, c'est pas, parce que généralement dans les films, quand un bébé naît, il est tout propre, il est déjà coiffé,
il a 15 ans,
il est maquillé,
il a son cartable,
il est pas frippé,
voilà, mais là il y a le cordon, il y a tout, il a encore du voilà, le
liquide amniotique,
exactement.
Nagui, il est 11h10, doucement.
Oui, j'ai failli aller plus loin, t'as raison.
Dans Rester Vertical d'Alain Guiraudy, il y a une scène d'accouchement qui est assez forte, hein, dont on se souvient. Je me demandais, là dans le film, on ne voit que votre visage et on voit les bébés sortir. Vraiment, sincèrement, qu'est-ce que ça fait d'être là aux premières loges, de voir le corps féminin dans toute sa vérité aussi, de l'effort et de l'action. Qu'est-ce que ça suscite
en fait, chez vous ? Au début, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir voir ? Et puis, le premier accouchement que j'ai vu, tout simplement, j'étais donc juste devant. Et là, j'ai eu une sensation assez esthétique, finalement. C'était tout simple. C'était une figure comme ça, avec une tête qui passe, et la perfection comme une petite sculpture qui apparaît. Franchement, ça m'a fait un effet. C'était comme quelque chose de gothique, un peu, là, comme ça. Géométrique. Esthétique pure.
Comme une gargouille.
Et pardon, mais non. Ouais, ah oui, gothique, tu parles de Notre-Dame.
J'aurais pas employé ce mot.
Il a été difficile de convaincre les parents que pour la naissance peut-être de certains de leurs premiers enfants, il y ait tous, même si c'est une équipe réduite, oui. Mais enfin en tout cas, tout ce barnum qui n'était pas prévu dans une salle de travail.
Bah, les gens, évidemment, la maman, elle était prévenue depuis plusieurs mois.
J'entends, mais l'accord a été facile à obtenir ou des mamans ont refusé?
Il y en a qui ont refusé, bien entendu.
D'accord.
Mais je crois que la régie du film, plusieurs mois à l'avance, avait été rentrée en contact avec pas mal de femmes. Et de...
On leur a montré vos films pour qu'elles soient préparées.
Alors, c'est l'histoire donc de Claire que vous interprétez, Catherine Fraud, qui est sage-femme, qui est une femme... qui est sage-femme d'ailleurs, et le trait d'union sur le générique du début
disparaît. À un moment. En fait, c'est sage-femme, mais pas si sage que ça. Parce que comme le cœur du film, c'est aussi ces deux femmes et qui sont si opposées.
C'est une fable.
Et qu'est-ce c'est que la sagesse dans leur comportement, leur manière de vivre? Elles n'ont rien à voir. Voilà.
On rappelle que sage-femme, dans le métier, la femme en question, c'est celle qui accouche et pas celle qui fait accoucher. Puisque les hommes qui font accoucher, qui font ce métier-là, sont aussi sage-femmes.
Ah oui, voilà.
Voilà.
Il y a un nouveau terme maintenant, c'est mailloticien, mailloticienne.
C'est ce qui est dit dans le film, en effet. Donc vous, Catherine, vous incarnez cette sage-femme qui est confrontée d'abord à des situations d'urgence, à des situations évidemment extrêmement délicates. Par moments, des accouchements se passent bien, par d'autres moments, c'est plus difficile, voire plus inquiétant. Le plus grave peut malheureusement arriver. Tout cela se passe dans une maternité qui, en plus, subit une réduction de budget, voire un avenir plutôt sombre, puisqu'elle doit fermer cette maternité. Certains se battent, d'autres sont amenés à être transférés dans un hôpital qui paraît être une usine pour vous. Enfin bref, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas totalement reposé dans votre situation personnelle et professionnelle. Et là débarque dans votre vie Catherine Deneuve, qui était votre belle-mère, et qui revient après un long voyage et qui va tout chambouler dans votre vie.
Oui, bah parce qu'il y a une histoire, il y a un traumatisme quand...
Je m'arrête parce que je ne sais pas ce qu'on peut dire et pas dire.
Non, voilà. Oh, ça, puis c'est... Non, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, après ce démarrage sur les accouchements, la notion de naissance, la crudité de ça, il y a un réalisme vraiment hyper réaliste. Et puis, petit à petit, le romanesque s'installe à travers ces personnages qu'on va croiser dans le film, qui sont ces deux femmes si opposées, qui sont le personnage d'Olivier Gourmet, parce que en fait, mon personnage, Claire, dans un premier temps, à part sa passion pour son métier, elle a une certaine solitude, quelque chose d'un peu éteint. Mmh. Et c'est très intéressant comme psychologie de personnage. C'est comme si chacun, dans l'existence, on a des moments de fermeture, quelque chose s'éteint et quelque chose doit se libérer. Et donc, l'histoire du film, c'est aussi la libération de Claire en rencontrant cette Béatrice qui revient du passé, où on apprend l'histoire d'un traumatisme et on doit régler cette histoire. Voilà.
C'est
une rencontre amoureuse.
Et voilà. Et vous, Olivier Gourmet, vous êtes aussi un rayon de soleil.
Ah oui.
Oui, c'est le rayon de soleil du film. Oui. Martin m'avait dit avant. C'est un des rôles les plus proches de moi en même temps parce que souvent on entend dire oui, il a plutôt un côté bourru et Martin m'avait dit écoute, je vais faire un rôle pour toi où tu auras ce côté solaire et ce côté souriant. Heureux, ouais, heureux de vivre et heureux de partager.
Qui
de donner.
Cultive son petit voilà. Lopin de terre avec,
celui
avec
de son
ses
père,
légumes.
Parce que son père est malade, donc il reprend la main, mais voilà, et puis il tombe follement amoureux et il a le coup de foudre pour cette femme qui est en train de déplanter ses salades au début du film.
Et c'est vrai, vous êtes toujours de bonne humeur, même quand elle n'est pas extrêmement agréable avec vous. Vous gardez le sourire, vous la comprenez, vous êtes extrêmement conciliant.
C'est un homme très compréhensif. C'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité humaine et qui comprend que. Comme Catherine vient de le dire, elle est dans une phase de sa vie où elle est éteinte et où elle va renaître quelque part de par cette rencontre avec Catherine Deneuve et de par cette aventure avec cet homme. Donc il faut lui laisser le temps et lui laisser la main.
Et c'est elle qui va décider.
Pas forcer les choses.
Ouais. Et vous incarnez en somme une forme de liberté, comme le personnage de Catherine Deneuve. Au départ, quand vous indiquez qu'après l'hyper-réalisme, il y a le romanesque qui commence, c'est la fable de la cigale et la fourmi, en gros, hein, dans les deux personnages que les deux Catherine interprètent. Et il y a cet autre personnage qui, lui, vous fascine aussi pour peut-être ce que vous n'avez jamais pu être. C'est être loin de toute attache. On dit dans le film qu'il est routier parce qu'il veut être libre.
Oui. Non, je pense que c'est un amour un peu pur. Il y a quelque chose comme ça, ça raconte ça aussi. C'est quelque chose où accepter cette simplicité-là, cette grande affection, cet amour. C'est beau ça, je trouve. C'est pas un amour tordu, c'est pas un amour compliqué, c'est un amour évident. C'est un amour physique, évident, sensible. C'est j'aime bien ça.
Il y a l'amour sous toutes ses formes, l'amour de son métier, l'amour de la vie, l'amour pour une personne du sexe opposé, l'amour maternel aussi qui est remis en cause. Il y a toutes les dimensions, c'est-à-dire que ça vient de tous les côtés. Un peu chamboulé justement cette vie. Vous n'étiez peut-être pas prête à recevoir autant d'amour en même temps. Non, mais tout arrive en même temps.
Non, mais c'est beau, ça. D'en parler comme ça, j'aime bien, parce que c'est des moments de crise dans l'existence où tout à coup, tout arrive, on ne le voit pas forcément, mais les choses sont là, et voilà. Alors, il y a un sujet dans le film qui est très important, c'est le pardon. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle va pardonner à cette femme...
À sa belle-mère,
elle va voir les choses qui lui arrivent, quoi. Donc, c'est l'histoire d'une renaissance. C'est aussi ça. Il y a des naissances, et il y a des renaissances, et il y a de l'amour. Bon, il y a beaucoup de grands mots hein, dans tout
ça.
C'est quand même le film aussi. C'est l'histoire d'une femme engagée dans ses choix. On le voit dans son envie de pratiquer son métier, dans son rapport même à la nature, à l'existence. Et ça fait de vous un personnage féminin qui n'est pas caricatural. Et je trouve que ça fait du bien de voir ça aussi sur grand écran.
C'est quelqu'un qui est un peu dans l'abnégation, qui donne beaucoup aux autres, mais qui ne s'occupe pas du tout d'elle. Le personnage de Catherine Deneuve, c'est l'inverse. C'est une femme un peu égoïste, fantasque, tout lui est un peu dû, etc.
Oui, même l'argent lui est dû, même l'argent qu'elle n'a pas.
L'argent qu'elle n'a plus.
Elle l'emprunte de partout, elle le joue au poker, elle perd.
Puis elle s'est inventé une vie, elle s'est raconté qu'elle était une duchesse hongroise, alors qu'en fait c'est la fille de la concierge de l'immeuble d'à côté. Tout a été... Elle s'est raconté une vie, mais c'est un personnage très touchant aussi pour ça. Mais voilà, mon personnage à moi est dans l'abnégation, grande humilité. Voilà, c'était plaisant.
Un peu rigide.
Et elle apparaît rigide. Justement, Olivier Gourmet, elle apparaît, cette sage-femme, aussi comme une espèce de princesse. C'est-à-dire que vous la voyez, évidemment, avec les yeux de l'amour, mais elle a toutes les qualités du monde pour vous séduire. Seule dans vos légumes et dans vos patates et dans...
Oui, elle a quelque chose de simple et de quelque chose de proche de la terre et de l'humain. Donc, inévitablement, ça touche cet homme qui est quelqu'un de concret, terre à terre, simple et qui aime la simplicité, la douceur, la tendresse. Et il reconnaît... Enfin, déjà, quand il apprend son métier, je pense que ça le conforte dans son idée, dans son intuition. Je pense que c'est plutôt un amour d'intuition au départ, mais il sent chez cette femme, oui.
Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de place pour un homme
vraie tendresse.
Dans sa vie.
Non, mais c'est comme je disais, il faut lui laisser le temps, il faut laisser la chance au temps, et comme vous le disiez, lui laisser la main pour que, petit à petit, s'approche.
Vous voyez aussi une morale, peut-être le mot est un peu fort, mais enfin des leçons à tirer de cette histoire, de ce film.
Des leçons à tirer, je pense que chaque spectateur tirera les leçons qu'il a envie de tirer. Moi, je ne suis pas pour un cinéma moralisateur et qui est spécialement une morale. Je suis plutôt pour que le spectateur s'empare de l'histoire et après se fasse sa propre idée. Moi, j'ai ma propre idée, oui, bien sûr. Enfin, on en a parlé sur l'importance de l'amour et du don de soi. Aujourd'hui nécessaire et du partage et du pardon.
Ça parle pas du tout, Nagui.
Si, je trouve que c'est quelqu'un de très généreux, Nagui.
Ah, vous le connaissez pas. Revenez à midi 35.
Ce film est signé Martin Provost. Comment ce projet, d'ailleurs, vous est arrivé, Catherine, Olivier? C'est simplement, c'est un scénar, ce sont
Olivier
des agents.
Olivier connaissait bien Martin.
J'avais tourné avec
Martin,
avec Violette. Avant, et il m'avait dit, voilà, j'aimerais dans le prochain t'y inclure avec un personnage. Déjà à ce moment-là, plutôt, il avait déjà, je pense, l'idée en tête. Donc j'ai attendu, je ne sais plus, 2-3 ans qu'il écrive et qu'il me
recontacte. C'est long, la gestation d'un film. Hein,
oui, c'est long, mais bon, heureusement, entre-temps, il y en a d'autres, donc ça va.
Et vous, Catherine, le projet, c'est simplement un écrit que vous recevez? C'est un rendez-vous?
Non, c'est Martin qui m'a téléphoné en me disant qu'il m'avait vu la nuit.
Comme une apparition.
Comme une apparition,
oui,
comme
il a
un
la télé,
rêve.
Mais
Disons que voilà, il a eu envie d'écrire pour moi, c'est le personnage de cette sage-femme.
Ah, c'est du sur-mesure, alors. Il a pensé à vous en écrivant le rôle.
Ah, oui.
Ça rajoute une pression supplémentaire quand un réalisateur vous dit ça?
Oui, quand même.
En plus, il écrit pour vous et Catherine Deneuve.
Et Catherine Deneuve aussi.
Toutes absolument. Les deux.
Oui, ouais. Catherine Deneuve était aussi très vite sur le projet.
Ouais. Ah oui, c'est la première fois que vous jouez ensemble.
Bah, oui.
Il y a eu un round d'observation, comment ça s'est passé?
Bah, faut prendre le temps de s'observer, vous voyez. Mais, oui, mais donc il y a un petit temps comme ça. Mais ça allait très bien avec les personnages. Puis moi, quand j'avais 10 ans, j'ai découvert Catherine Deneuve dans les Demoiselles de Rochefort. Et elle, c'était vraiment, j'étais fascinée. Et comme dans l'histoire, Claire est fascinée, il reste une fascination rejet. Par l'histoire. Pour Béatrice, moi
Vous êtes servie de ça?
Et oui, parce que sa belle-mère, c'est quand elle avait 10-11 ans, etc., tout ça. Donc, je me suis servie de cette émotion-là.
En tout cas, ça marche, ça fonctionne bien. Ouais. Et c'est un bon film, quoi. C'est un film agréable et qui nous replonge, et on en parlera tout à l'heure avec une sage-femme, justement, qui nous replonge dans ce métier incroyable, qui a un rôle déterminant, c'est évidemment de mettre au monde des enfants. Et on le voit dans des situations extrêmement tendues et délicates, de sauver des vies. Et c'est peut-être pas la profession la plus protégée ou la plus estimée, en tout cas, dans notre société, ne serait-ce que par le salaire ou par le...
Y a pas mal de petites maternités qui ferment.
C'est ça.
Le souci qui préoccupe le personnage de Claire. C'est que maintenant, il y a plein de petites villes en France où il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir accoucher. Enfin,
et pour tout pour ça, aller pour dans se retrouver dans un grand hôpital où il faut faire des kilomètres de couloir.
Où tout va très vite. Voilà,
c'est l'usine.
Ça s'est déshumanisé. C'est le rendement qui compte, quoi. Mais ça, c'est pour beaucoup de choses aujourd'hui.
Ça s'appelle Sage-Femme. C'est au cinéma mercredi avec Catherine Deneuve, Catherine Fraud et Olivier Gourmet. Catherine et Olivier sont nos invités jusqu'à 12h30. Et vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait leur venue.
Et oui, quand je pense à vous, Catherine Fraud, je pense à un personnage qui m'a toujours terrifiée. Un personnage littéraire que vous avez incarné après Alice Sapritch. C'est la fameuse Folcoche dans Vipère au poing de Philippe de Broca. Inspirée du livre de l'autobiographie d'Hervé Bazin, du roman autobiographique. Et c'était avec Jacques Villeray.
Comment elle était, maman? Tu t'en souviens, toi?
Ouais, un petit peu, elle était...
Jolie?
Maman, on me laisse descendre, on aura tout le temps de s'embrasser. Place.
Pour la fin, cette chère Bélangerie, elle n'a pas changé.
En effet, toujours aussi sinistre. Vous installerez ce poêle dans ma chambre, les enfants n'ont pas besoin de chauffage en hiver. Pas de beurre pour les enfants, c'est très malsain pour la croissance.
Un problème, monsieur Hilton?
Après le déjeuner, une demi-heure de récréation.
Qui pourrait être supprimée à la moindre incartade.
La vache.
Ah. Et tâchez de vous taire.
Avec le dos, c'est suffisant.
Une folle, une cochonne. Folle cochonne. Folle coche.
Une folle, une cochonne, folle coche. Et quand je vous vois, je suis toujours fascinée parce que je... À la fois, ça marche tellement bien. Et moi, j'ai vraiment eu très peur en voyant ce film.
Ah, bah, oui.
Et en même temps, bah, oui. Mais c'est vrai.
Je comprends.
Et quand je vous vois dans Sage-Femme et que je vous vois dans cette tendresse et cette humanité, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui sont capables d'aller
De la méchanceté à la gentillesse.
Autant d'opposés avec autant de réalisme et de force. Folcoche, revoyez Vipère au point. Elle est vraiment très angoissante. Ce personnage est très très angoissant.
Pour résumer, Catherine Froux est une très bonne comédienne.
Oui, alors ça c'est le cas.
Ou une schizophrène.
Non, mais c'est aussi le cas d'autres comédiennes, mais pour incarner des personnages aussi étrangers l'un à l'autre, avec en plus un Jacques Villeret qui incarne la bonté dans ce film.
Oui, oui, oui.
Vous avez un souvenir de
mais
ce
moi,
tournage.
Moi, je les cherche. Vous voyez les personnages. Ouais. J'aime bien les contrastes. J'aime bien me surprendre. J'aime bien surprendre les gens. Et voilà, moi, c'est que je suis passionnée par des personnages. C'est avant tout. Et je trouve que là, puis comme je fais quand même pas mal de théâtre, j'ai quand même appris à structurer un peu mes personnages. Et,
ça, c'est le théâtre.
Et j'aime bien m'oublier derrière, moi, vous voyez. Donc, c'est mes personnages qui vont devant, je m'en amuse. Hein. Ouais. Et un personnage, plus il est méchant, plus il est mauvais comme Folcoche, plus c'est intéressant pour un acteur.
Et ça, c'est le théâtre qui aide à...
Je pense que c'est le théâtre qui a donné... Pas forcément, à la fois il y a tout comme genre d'acteur, c'est pas forcément le théâtre. Mais au théâtre, j'ai appris à structurer, quoi, à travailler.
À travailler les personnages.
À travailler les personnages.
Et comment on aborde une Folcoche, par exemple?
Je dirais qu'il y a un phrasé qui est intéressant. Là, en me réécoutant, vous voyez. Et d'ailleurs, j'ai reçu, c'est vraiment un des films où j'ai reçu le plus de lettres d'enfants.
Bah, oui.
Vous deviez être gamine, hein.
Bah, oui.
Vous deviez avoir genre 10, 15 ans, je sais pas, 10 ans. 8 ou 7,
regarde
pardon.
La date,
c'est parti. Ah non, mais peu importe. Moi, j'ai reçu énormément de lettres d'enfants, quoi.
C'est quoi, c'est début 2000, non, je crois de...
Ah, mais moi, je l'ai montré à mes élèves. Je l'ai montré à mes élèves. Je l'avais choisi pour le montrer à mes élèves à l'époque aussi.
Ah, ouais,
donc, c'était. Et je revivais avec eux la terreur que j'avais eue en lisant le bouquin d'Hervé Bazin.
La génération, la première fois que j'ai vu, moi, c'était Alice Sapritch. Donc, si tu veux.
Je crois que c'était encore pire que moi. Hein. Alice Sapritch, c'était terrorisant.
Ouais. Bah, je vous confirme, ça l'était. Ouais.
Ah, mais vous étiez
tellement
pas mal,
terrorisant
hein.
Que j'ai pas eu envie de voir la version de Catherine Froux. La voir au théâtre, la voir au théâtre et au cinéma, oui, mais là, dans celui-là, non, ça
vous avez marqué. Vous avez loupé quelque chose.
Vous n'êtes pas un vrai fan comme ma mère.
Et quand je pense à vous, Olivier, je pense à ceux qui même prendront le train. Alors, je vous ai beaucoup aimé récemment dans Le Secret de la Chambre Noire de Kurosawa. On avait reçu ici Tahar Rahim
et Meïk Zidi
pour ce film. Vous étiez vraiment incroyable. Et mais moi, vraiment, quand je pense à vous, c'est ce film de Chéreau qui me revient. C'est un film choral, certes. On écoute un peu la voix de Jean-Louis Trintignant au début.
On peut faire un essai, juste pour le son.
Oui, 1, 2, 3, je m'appelle Aymeric Jean-Baptiste. Né le 2 avril 1926 à Limoges. Père industriel, mère femme d'industriel.
Regarde, c'est les papas. Mais non, là, regarde, c'est papa.
La petite industrie, celle qu'on appelle familiale. Pas la porcine, la chaussure. À Limoges, quand on n'est pas dans la tasse de thé, on est dans la pompe. Ça va comme ça?
Un casting incroyable, Charles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi, Vincent Pérez, Dominique Blanc, Roche Dizem, Pascal Grégory, Guillaume Canet. Et vous aussi, c'est un des premiers films où je vous ai vu. C'est une histoire particulière avec Patrice Chéreau, puisqu'il y a une histoire de rencontre qui se fait sans se faire. Je crois que vous avez commencé votre parcours en vous inscrivant au cours de Chéreau à Nanterre.
Et oui, j'ai quitté la Belgique après avoir fait le conservatoire en Belgique. C'était trop court pour moi parce qu'entre 0 et 19 ans, la culture et moi, c'était... Enfin voilà. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je vois d'autres choses, que je sois curieux.
La manière dont on voulait vous l'inculquer,
ouais,
peut-être.
Voilà. Culture, non, mais j'ai grandi dans une ferme, et bon, en 0-19 ans, la seule culture juste, c'était le travail, la culture du travail. Pour le conservatoire, j'avais un peu de dons, ils m'ont donné un premier prix après 2 ans, je me suis dit, c'est trop peu, 2 ans, j'ai rien vu, je connais rien, je vais aller voir ailleurs, et j'avais vu Dans la solitude des champs de coton de Chéreau, et je savais qu'il avait une école à Nanterre, avec 10 personnes avec qui il travaillait pendant 3 ans, donc il finissait un cycle de 3 ans, le premier cycle, et il allait reprendre un cycle de 3 ans, j'ai quitté la Belgique, je suis venu m'installer à Paris en cherchant une chambre, enfin c'était compliqué, enfin bref, j'ai pas envie, sinon ça va prendre 2 heures, je me suis inscrit, et puis je suis venu à Paris pendant 6 mois pour trouver un petit boulot, un logement. Et puis au moment de l'inscription a eu lieu. Et puis au moment de l'examen, on a reçu une lettre, tous ceux qui étaient inscrits, disant voilà, j'arrête, je suis plus suffisamment motivé. Donc l'école s'est arrêtée. J'ai repris ma valise et je suis revenu en Belgique. Et 10 ans après, non plus de 10 ans après, je reçois un coup de téléphone de sa directrice de casting. Margot Capelier, qui avait une voix comme ça, assez éraillée. Et j'ai pensé que c'était un copain qui me faisait une blague. Qui s'appelait Luc Brumann, et il me disait
Monsieur Chéreau, vous avez vu dans le film des Frères Dardenne, il voudrait vous voir demain pour son prochain film.
Là,
vous
dites quoi? Et je dis Luc, arrête, s'il te plaît, je t'ai reconnu. Arrête de dire une connerie.
Non, mais je vous assure, monsieur Copain, ce n'est pas du tout.
Finalement, je dis Luc, c'est bon, et je raccroche.
Non.
Ah, si, je raccroche. Et le téléphone ressonne tout de suite, heureusement. C'est pas offusqué.
Parce qu'elle avait dit excusez-moi, mais je ne suis absolument pas.
Parce qu'elle avait une réputation d'être plutôt sévère.
Moi je la connaissais pas.
Une personnalité.
Je la connaissais de nom, mais.
Non, mais elle aurait pu mal prendre que vous raccrochiez.
Elle aurait pu le mal prendre, donc elle a pas mal pris.
En même temps, elle n'a pas qu'à imiter Luc. Hein.
Voilà. Oui, elle n'a pas qu'à imiter Luc. Et je me suis. Voilà. Et j'ai pris le lendemain le train pour Paris et j'ai rencontré Géraud. J'étais mort de trou. Je dis il va me faire passer un casting. Je déteste ça. J'avais un café en main quand elle est arrivée. La tasse s'est mise à brinque-baller dans tous les sens. Comme ça, j'avais du mal à me calmer. Et il me regarde de la tête aux pieds. Et puis il me dit ok, c'est bon, merci. Et je dis vous voulez pas que je fasse un essai? Non, ça va. J'ai vu le film des Frères Dardenne, La Promesse. Je n'ai pas besoin de vous faire passer un casting. Là, je vous vois. Il dit je veux que vous soyez aussi laid que dans La Promesse.
Ça, les encouragements, ça aide toujours. Hein.
Il faut bien prendre. Hein,
tu dis ça vaut
le coup. Ok. Bon, ça va.
Mais non, mais sans blaguer, aujourd'hui vous en riez, mais il faut avoir un sacré recul pour entendre une phrase comme ça qui est d'une violence inouïe.
Oui, il faut un sacré recul, mais bon, après, comme Catherine le dit, endosser des personnages, être derrière les personnages, il y a une certaine distance qui se crée de par l'école, de par la formation du théâtre. Oui. Et moi, ça me fait rire plutôt qu'autre chose.
Ouais, tant mieux, ouais. Catherine Fraud et Olivier Gourmet sont donc à l'affiche de Sage-Femme, le film de Martin Provost au cinéma ce 22 mars, c'est-à-dire mercredi prochain. Voici l'humeur de Nora Hamzaoui. Ah.
Oui, donc ce week-end, c'était la Saint-Patrick. Donc la Saint-Patrick, une fête qu'on pourrait résumer par boire des coups, voilà. Du coup, autant vous dire que cette année, énorme drame pour les pocherons de service qui cherchent une excuse de plus pour picoler puisque la Saint-Patrick est tombée un vendredi. Ah bah, une Saint-Patrick qui tombe un vendredi, c'est un peu comme une fête de travail qui tombe un dimanche, c'est gâché. Autant la Saint-Patrick, un lundi, un mardi, un truc un peu transgressif, tu te dis, je vais me bourrer la gueule, je vais me prendre une cuite, je vais le regretter toute la semaine. Mais alors la fête Saint-Patrick qui tombe un vendredi, ça s'appelle juste passer un week-end comme tous les autres, en fait. Alors ça n'a pas empêché mon pote Thibaut de vouloir fêter ça. Alors mon pote Thibaut, pour que vous compreniez un peu son profil, c'est un mec qui a deux passions, l'alcool et la déco. Donc en gros, vous imaginez Valérie Damido, Gérard Depardieu, bon bah paf, voilà. Et en gros, son plaisir, c'est de mettre ses deux passions au service des fêtes. Donc picoler dans les guirlandes à Noël, picoler dans l'étoile d'araignée pour Halloween, ou genre cette année pour l'épiphanie, il a quand même construit des figurines de rois mages en papier mâché. Donc ça va très loin. Donc autant vous dire que la Saint-Patrick, c'était tout un programme. Enfin à la base, il a failli annuler parce qu'il avait pas reçu sa livraison de gazon vert en synthétique. Du coup, il voulait faire ça dans un pub, et puis comme s'il s'est rendu compte que tout le monde avait eu la même idée que lui, donc le pub, pas le gazon synthétique, parce que ça évidemment tout le monde s'en fout, il a finalement décidé de faire ça chez lui, la Saint-Patrick. Alors il était hyper remonté, il était là, ah bah gazon ou non gazon, je le fais à la maison, gazon ou non gazon. T'es là, non mais en fait on s'en fout, surtout du gazon. C'est marrant, hein, comme les gens ont leur propre vie intérieure parfois comme ça, et c'est étonnant la nature humaine, tu comprends pas. Donc le thème de la soirée c'était des pintes et du verre, et le dress code évidemment c'était avoir un détail vert sur soi. Alors franchement, je dois vous dire que je trouve ça un peu relou d'imposer des thèmes comme ça à ses invités. Je veux dire, soit tu m'invites, soit tu m'emmerdes, mais t'essayes de pas faire les deux en même temps, s'il te plaît. C'est pénible. C'est comme ces gens qui t'invitent et qui te demandent de retirer tes chaussures en rentrant et de pas parler trop fort parce qu'il y a fils qui dort à côté. Et rassure-moi, tu veux pas que j'utilise que des verbes du premier groupe quand je m'exprime aussi, que je fasse un petit coup de balai, non plus. Non, mais enfin, on rêve. En plus, cette histoire de porter un détail vert, c'est un faux ami parce que toi, tu te dis, ok, c'est un détail, ça passe, c'est pas galère. Sauf qu'en fait, pas du tout, parce que tu peux porter un t-shirt vert, tu peux pas porter un pull vert. Non, faut que ce soit un détail. Enfin, je dis ça, il y a quand même trois invités qui sont arrivés déguisés. Shrek, c'est là que tu dis la notion de détail est hyper subjective en fait. Bon, sinon au final la soirée, comment vous dire, c'était une soirée comme les autres en fait, normale mais en un peu plus chiante. C'est-à-dire que après c'est pas de ma faute, hein. Moi je suis pas fan de la musique irlandaise, enfin je veux dire pas toute la soirée quoi. Et j'aime pas la bière non plus, donc bon bah voilà. D'ailleurs ça m'a permis de remarquer qu'il y avait un vrai problème avec les gens qui aiment pas la bière. Toute la soirée j'ai dû me justifier. Mais c'est toutes les bières ou juste l'ambrée? Parce qu'une blonde très légère, je suis sûre que ça plairait. Non, c'est insupportable. À un moment il y en a quand même un qui m'a dit mais c'est quoi que t'aimes pas dans la bière, le goût? Non, c'est le mot. J'aime pas le mot. Évidemment que c'est le bout de cette question. Les gens sont cons, je te jure. Alors, une heure et demie à parler de bière, de la Monaco à la Guinness. Le Monaco, c'est pas de la bière, en passant par Sandra, qui à un moment fait une cure de levure de bière et ça fait vachement de bien ses cheveux, tout ça sur zombie, des cranberries, un enfer, quoi. Un moment pour changer de sujet et élever un peu le niveau de la conversation, je décide de lancer un débat au sujet du prénom Patrick. Est-ce que finalement, le vrai souci du prénom Patrick, c'est pas qu'il souffre de son surnom Patoche, parce que finalement, Patrick, c'est aussi Patrick Bruel et c'est aussi, bref, j'étais bourré, quoi. Et alors que le débat venait vraiment intéressant, un type immonde vient m'accoster en me parlant à 2 cm de la gueule. Alors que ça va, on n'est pas en boîte, je l'entends très bien. Et il me dit, moi, mon détail vert, c'est un trèfle à 4 feuilles. Devine où je l'ai caché. Non, mais le cauchemar. Mais... en plus, je ne comprends pas la démarche du truc, le but de la question. Je veux dire, quelle réponse serait sexy ou attirante dans ton slip? Je veux dire, t'aurais juste envie de lui dire, mais enfin, qu'est-ce que tu fais avec un trèfle à 4 feuilles dans ton slip? J'espère qu'il va te porter bonheur, qu'il va porter bonheur à ton cul. Et puis surtout, oublie pas de le retirer cette nuit. Enfin, je veux dire, je ne comprends pas ce genre d'approche, ça me dégoûte. Bon, du coup, j'ai décidé de rentrer chez moi. En partant, je suis tombée sur mon pote Thibaut qui était complètement bourré dans sa cuisine en train de fabriquer des petits poissons en aluminium pour sa prochaine fête du 1er avril. Ouais, je comptais y échapper, mais manque de bol. Ouais, ça tombe un samedi cette année.
Merci. La bande originale. Sage Femme, le film avec Catherine Froy et Olivier Gourmet. Catherine Deneuve a aussi cette BO.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème.
Quel bon choix cette musique, tellement ça colle bien à son univers, ça colle bien aussi en termes de texte et de douceur à l'état d'esprit dans lequel vous êtes à ce moment-là.
Ouais, ouais. Mais ça c'est la scène avec Catherine Deneuve, ça,
ouais.
Entre vous
oui.
deux.
Oui, où on chante.
Dans la cuisine.
Ouais. Dans la cuisine, oui.
Exactement, vous découvrez ça.
Camionneur routier, chauffeur routier.
Vous découvrez ça en point commun.
Un point commun. Ouais. Enfin, Léo Ferré surtout, qu'elle n'aime pas trop, mais bon, voilà.
Ma liberté. Il y a un petit débat.
Oui, non, c'est ce qu'elle garde. On chante, pardon.
Comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres.
Évidemment.
Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie.
C'est bien de réécouter cette chanson en ce moment.
Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris.
Ce très bon film qu'on vous encourage à voir donc s'appelle Sage Femme et il sort ce mercredi. On a justement pris de la musique donc comme ça et on a vu ce que vous écoutiez fonction des années où il se passait des choses dans vos vies. Par exemple dans les années 80, Catherine Froy écoutait Rita Mitsuko. Donc Rita Mitsuko est dans la bande originale de votre vie. Il se passait quoi quand vous écoutiez Rita Mitsuko dans votre vie?
Oh là là, moi je sais pas. J'écoutais beaucoup de musique, je dansais beaucoup, j'avoue. Et c'était les débuts de mon métier d'actrice. Voilà, c'était période de fête quand même, j'ai une sensation de fête.
Plutôt positive, ouais. Vous rencontrez Peter Brook qui vous caste dans La Cerisée d'Anton Tchekhov. Pour une raison particulière. Entre autres de votre qualité de comédienne, vous rougissiez naturellement.
Ah oui. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'il m'a engagée. Je sais pas, enfin voilà, ouais, je rougissais sur commande.
Mais parce bon, que généralement dans les castings.
Mais j'étais un peu tout le temps toute rouge. Hein, j'avais des joues quand même impressionnantes, donc je sais pas, c'était un côté nature quoi.
Et vous avez fait la servante avec Michel Piccoli, quel souvenir gardez-vous de Peter Brook et de cette pièce?
Ben, un souvenir quand même assez unique, un gros travail, beaucoup d'inspiration de la part de Brook. Voilà, et puis je retiens une phrase qu'il m'a dite vraiment, je l'oublierai jamais celle-là, c'est il y avait un petit souci dans une répétition, je n'arrivais pas à jouer quelque chose de l'ordre de l'hystérie, je n'arrivais pas à le décomposer, donc ça n'allait pas, j'avais une sorte d'embouteillage d'émotions, et il m'a dit, Catherine, tu es tellement rapide que tu dois être très lente quelque part. C'est génial. Et c'est une phrase qui me poursuit. Il y a des phrases qui vous font progresser dans la vie. Bah lui, il l'avait trouvé.
Mais c'est joli aussi votre expression des sentiments qui se embouteillage oui, de sentiments.
C'est, oui, c'est ça. D'un coup, il y a trop de choses et vous n'arrivez plus à le positionner.
Dans ces cas-là, il faut faire quoi quand vous avez encore ce sentiment aujourd'hui ou maintenant vous maîtrisez
dans le jeu.
J'entends. Ouais. Ou maintenant vous maîtrisez la circulation de sentiments dans le jeu.
J'ai appris à le maîtriser. Et j'avoue que cette phrase, elle m'a vraiment interrogé. C'est fort.
Dans les années 80, vous écoutiez Alléluia, Olivier Gourmet. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Et c'est cette version que vous vouliez entendre, celle de Jeff Buckley. Hein.
J'aime bien celle de Leonard Cohen aussi, mais d'autres, il y en a d'autres encore. Mais je sais pas, elle me touche davantage parce qu'il a une voix. J'adore Leonard Cohen, mais sur cette chanson, il y a une émotion que Jeff Buckley me transmet, à moi personnellement, plus que Leonard Cohen. Voilà.
Vous êtes dans les années 80. C'est-à-dire à peu près 10 ans avant que cette chanson ne sorte, hein. On va remettre aussi le côté temporel. Mais ça, c'est là où vous êtes précurseur. Voilà. Vous étiez capable d'écouter une version 10 ans avant. Vous vous installez à Liège où vous poursuivez des études de biologie. Quel était votre...
Aïe!
Quoi?
Ça, c'est une longue histoire. On a
c'est
le
pas
temps.
Ça?
Si, si.
Ah, ben, bah, dis-moi.
Mais c'est une longue histoire. C'est-à-dire, c'est une manipulation, c'est une escroquerie vis-à-vis de mes parents.
Vous avez fait croire que vous aviez des études de biologie?
Mon père ne voulait absolument pas que je sois comédien. Donc il trouvait que c'était un métier amoral et dans la marge, et on pouvait perdre son âme facilement.
Est-ce qu'il a vraiment tort?
Oui, il avait tort. Donc voilà, on perd sa personnalité, je pense pas l'avoir perdu. Bah, bref, j'ai hésité longtemps entre comédien et journaliste. Mais le problème, c'est que j'étais très très amoureux à cet âge-là. Et ma compagne, qui est aujourd'hui toujours mon épouse, qui s'appelle Catherine, aussi, allait faire ses études à Liège, et l'école de journalisme était carrément à l'autre côté de la Belgique. Et je me dis, elle n'était pas du tout accro. Je me dis, si moi je vais là-bas, c'est et mort. Là, c'est mort. Dans 15 jours, elle m'a oublié, elle a trouvé quelqu'un d'autre.
Loin des yeux,
donc
loin
je me suis inventé une passion subite pour la biologie, pour pouvoir aller faire un an d'études à Liège et pouvoir rester auprès d'elle.
C'est mignon.
Voilà, et au bout de 2 semaines, ayant fait des latins grecs, moi pas très fort en sciences, je me suis rendu compte que j'étais incapable de suivre les cours, donc je suis allé aux inscriptions, j'ai dit écoutez, il est encore temps de changer de section, et je suis passé en histoire de l'art. Donc j'ai fait très peu de biologie, je suis passé en histoire de l'art,
et puis toujours
sur cet allié-là, je disais à mes copains, moi je l'ai croisé, je m'en fous, l'année prochaine je fais le théâtre.
Voilà, et le conservatoire de Liège.
Voilà, et l'année d'après, j'ai fait le conservatoire de Liège.
Et c'est une histoire d'amour qui dure maintenant depuis 30 ans, c'est formidable.
Oui, depuis 30 ans.
Ouais, belle histoire.
Depuis 33 ans.
Belle histoire. Ouais. 1994, Catherine, écoutez Jacques Higelin. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé du ciel, Jacques Higelin. À ce moment, vous rencontrez la famille Bakri-Jaoui, puisque vous incarnez Yolande, évidemment dans un air de famille. Ça a duré, c'est resté à l'affiche longtemps, non?
On l'a joué une saison entière, de septembre à juin.
D'accord. Et de jouer un personnage où plus elle est triste, malheureuse et où il y a une espèce de descente en enfer, plus le public rit.
Oui.
Ça doit être particulier à vivre ça humainement.
Ouais. Sur le moment, c'était un peu vertigineux, j'avoue. Je pensais pas que le personnage serait drôle, vous voyez. Je dois être un peu bizarre quand même. Mais bon, au départ, je l'ai vraiment pris au tragique. Quand
d'accord.
Oui, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de drôle. Je voyais bien que le collier de chien, ça allait. Il y avait des endroits. Mais je la trouvais, vous voyez, il y avait une dimension pathétique.
Totalement.
C'était même dans l'écriture. Et c'était très réussi pour ça. Mais je savais pas où ça allait basculer ou pas. Je savais pas.
De toute façon, pour bien jouer comme vous l'avez fait, il fallait rester pathétique et pas du tout aller dans le comique.
Je sais pas, voilà.
Bah non, bah si, évidemment.
Ça m'a quand même un peu détruit.
limite, mais c'est pathétique qui fait rire dans ce cas-là.
Oui, oui.
Mais donc c'est cette.
C'est surtout l'attachement.
C'est l'humiliation qui fait rire, c'est qui est terrible en fait.
Et puis c'est l'attachement que les gens ont eu à ce personnage en fait. Ouais. Ils l'ont pris en pitié. Ouais. Les gens l'ont pris en pitié.
Mais comment on le vit justement quand tous les soirs, parce que quand c'est un rôle au cinéma, on se dit bon, on a tourné une fois la scène, on n'en parle plus. Oui. Là, c'est tous les soirs vous y retournez en disant, je vais à nouveau, comme le dit Leïla, me faire humilier, et ça va à nouveau être faire rire et faire plaisir aux autres.
Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est ça être acteur, hein, si vous voulez. C'était une marionnette. Hein. Je m'amusais avec ma marionnette. Je la mettais en route et c'était terrible. Non, non, c'est une pièce qui m'a apporté beaucoup. Ça me mettait en joie le soir, mais le matin, j'avais un peu le cafard.
Et est-ce que vous avez vu là la reprise d'Un air de famille?
Non, j'ose pas y aller, en fait. Ah. J'ose pas vraiment y aller. On m'a dit que le public connaissait les répliques par cœur. Il disait les répliques avant qu'elles aient lieu.
C'est vrai, on est allé, mais c'est Léa Drucker.
Oh, elle est pas, je suis sûre qu'elle est bien.
Elle est bien. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'écriture telle qu'elle est faite est quand même dinguissime. Alors, il faut que ce soit bien joué, évidemment, mais c'est extrêmement bien écrit. Puisque c'est intemporel et des années après, ça continue d'être efficace.
Et puis il y a des répliques
efficaces.
Qui font mouche, il y en a à l'appel, quoi.
Dans ces années 90-94, pour être précis, Olivier Gourmet, écoutez.
Encore une fois, on avance sur ce temps, je crois. Il est vraiment très précurseur.
Écoute, on lui parle de 94, il pense à ça, donc nous on passe à la musique.
Hein. Moi, on m'avait pas donné les dates.
Hein. Ah bon?
Non.
Étonnant.
On m'a demandé trois morceaux de musique, sans
donner de date.
Oui.
Oh ben on fouettera la personne concernée par ce manque de communication. vous êtes là, vous devenez juré au conservatoire dans les années 90-94.
Ouais, c'est ça, par hasard. C'est là que j'ai rencontré, c'est ce qui m'a permis de faire du cinéma, puisque c'est là que j'ai rencontré Jean-Pierre Dardenne, dans ce jury de conservatoire, et j'ai bien failli pas y aller, encore cette histoire d'amour, là. Parce que.
Bah, vous lui moi, devez j'étais, beaucoup à Catherine, hein.
Bah voilà, j'étais encore assez jeune à ce moment-là, j'avais 31 ans, et je me dis, mais c'est jeune pour être. Je me voyais mal dans la peau de quelqu'un allant évaluer d'autres jeunes et de leur donner une cotation sur un travail théâtral. Et j'en parle avec elle. Me dit,
à la fois, vous pouvez faire démarrer des carrières et des vies, à la fois, vous pouvez détruire quelqu'un
voilà,
aussi.
Ouais. Voilà, alors je dis, on en parle, j'en parle avec elle. Elle me dit, mais non, vas-y, il n'y a jamais que des vieux cons dans les jurys de conservatoire.
Ah, elle est bien, Catherine.
Et je lui dis, oui, c'est vrai, t'as raison, il n'y a jamais que des vieux cons qui se croient plus intelligents que tout le monde, autant qu'il y a un jeune qui défende les jeunes, ou enfin qui prenne la parole. Donc j'ai accepté. Et ça a ouvert ma carrière au cinéma, puisque suite à cette rencontre avec Jean-Pierre Dardenne, mon physique l'intéressant, mon physique banal l'intéressant.
Non, physique de méchant.
Oui, non, justement,
il
non.
Il
cherchait quelqu'un avec qui on avait envie d'aller boire un verre, mais qui allait se révéler être un monstre. Mais qui, de prime abord, était plutôt quelqu'un de sympathique, de souriant, et tiens, quelqu'un avec qui, j'irais bien prendre un verre avec lui.
Et il a dit en vous voyant, voilà mon méchant.
Voilà. Et donc, ils m'ont fait passer un casting, et puis il y a eu La Promesse qui a démarré ma carrière au cinéma.
Et ça vous a moins dérangé, vous, de jouer une ordure que Catherine Fraud
Non, mais elle le disait tout à l'heure, c'est jouissif de jouer les ordures. C'est jouissif.
Ça a été souvent.
Parce qu'on peut pas se le permettre dans la vie déjà, et puis de décortiquer ces âmes, ces ressorts humains qui vous emmènent là où. Vers l'horreur. Moi, c'est un de mes plaisirs aussi, en tant qu'acteur, c'est de décortiquer les âmes humaines et d'essayer de comprendre notre société aujourd'hui, tout en ayant énormément de plaisir et de recul et de distance. Voilà.
On est dans une période où tous les deux vous remportez des prix. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais évidemment pour Un air de famille, c'était un César, le César de la meilleure actrice dans un second rôle que vous avez reçu ce prix. Vous, Olivier, vous recevez le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, dans Le Fils, cette fois-ci, en 2002. Le sentiment est d'avoir une reconnaissance de ses pairs, un ego flatté, un encouragement pour continuer. Parce que vous avez tous les deux eu des doutes sur le « est-ce que je continue ou pas de faire le métier tel que je le fais ?» En tout cas, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand vous avez reçu le César, Catherine ?
J'étais terriblement heureuse, je vous avoue. Mais j'ai toujours eu la sens d'une année à l'autre, j'arrive jamais à me souvenir qui a eu les prix l'année d'avant, vous voyez. Donc, je me suis toujours dit que c'était un peu il fallait le déguster
éphémère.
Au présent,
ouais.
Mais que le lendemain, faut voilà, c'est un peu C'est pas grand-chose, c'est éphémère. Quelque chose comme ça.
Et vous, Olivier, c'était pour faire plaisir, ça faisait plaisir à la famille, j'imagine.
Ça faisait plaisir à la famille. Moi, j'étais paniqué parce que je me dis qu'est-ce que je vais aller raconter sur scène. Ça m'a foutu les boules, mais voilà. Mais c'était oui, c'est une, comme vous dites, c'est une reconnaissance, un coup de pied au cul et ça pousse, ça donne envie d'aller plus loin et de oui, une reconnaissance et ça flatte l'ego aussi, un peu tout ça, oui.
On reçoit plus de scénarii.
Si je suis contre l'ego des artistes, mais voilà. Mais ça flatte, évidemment.
Est-ce qu'on reçoit plus de scénarii
Oui, alors moi, ça a changé un peu ma vie, parce que je viens d'un cinéma et je reste beaucoup ancré dans un cinéma d'auteur, donc ça vous permet d'accéder à des rôles plus importants et à plus de scénarios.
En 2016, on fait un bond. Là aussi, on continue dans les prix. Catherine Fro écoute Christine and the Queens.
Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout.
Vous remportez le César de la meilleure actrice pour l'interprétation dans Marguerite, le Molière dans la catégorie comédienne dans un théâtre privé pour Fleur de Cactus. Et juste avant la cérémonie, dans cette cérémonie, vous rendez compte que vous êtes en compétition avec Catherine Deneuve, que vous retrouvez là maintenant dans
oui,
Sage-Femme.
Oui, oui.
Mais et vous trouvez ça hallucinant?
J'ai dû dire ça, oui, je sais plus. Mais ça m'impressionnait, quoi, parce que
vous l'avez dit à votre agent.
Oui, parce que je vous dis, parce que pour moi, c'est vraiment quand j'étais enfant, Catherine Deneuve, elle m'a marquée dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est vraiment c'est là, une figure irréelle.
On est gêné quand on gagne un prix et qu'on le gagne face à ses idoles.
Ah, pas du tout. J'étais pas gênée du tout. Vous voyez, ça m'a donné envie de chanter. J'ai chanté Marguerite là. Franchement, j'étais. Non, parce que c'est du jeu tout ça quand même. Hein.
Olivier Gourmet en 2016. Pardon ?
Je suis plus du tout précurseur là.
En 2016. Plus précurseur, puisque vous écoutez YouTube, vous avez le droit. Hein. La preuve, aujourd'hui on peut écouter Reggiani aussi, tout va bien, même en 2017. C'est pour fêter encore à Saint-Patrick.
C'est quoi ?
YouTube, groupe irlandais, avec With or Without You. Trois films pratiquement la même année, Chocolat de Roche Dizem, La fille inconnue des Dardennes et L'ami François d'Assise et ses frères de Renaud Feli et Arnaud Louvet. C'est hasard du calendrier quand tout arrive comme ça en même temps.
Hasard du calendrier, puis c'est le hasard des sorties aussi, parce que...
Oui, tout n'a pas été tourné.
Tout n'a pas été tourné en même temps. Et en même temps, là, c'est trois petits rôles. Hein. Mais Chocolat, c'est 12 jours, L'ami, c'est 4 jours, et La fille inconnue, c'est 2 jours.
Il paraît que vous
Donc,
tournez...
C'est pas beaucoup sur une année, hein,
Non, mais il paraît que vous
travail.
Tournez 11 mois. Ce qui est super rare pour un acteur.
Mais c'est mon métier. Mon voisin se lève tous les matins pour aller faire des toits.
Pour un acteur. Un acteur n'a pas, malheureusement, pour les comédiens.
Ah oui, certains n'ont pas la chance d'avoir
autant,
du travail.
Autant de journées de travail.
Autant
ouais.
de journées de travail, je sais. Intermittent du spectacle, c'est un autre débat, un autre problème. Oui, j'ai beaucoup de chance. Oui, j'ai une bonne étoile. Et... Voilà, ouais, j'ai beaucoup de chance et j'en profite.
Comment faire,
je m'amuse.
Comment faire le tri? Est-ce que lorsque c'est un don d'ailleurs de lire un scénar et de savoir par avance si ça sera bien ou non?
On a toujours un doute. C'est un don, je sais pas, mais moi j'ai toujours un doute. Je sais pas vraiment. Je lis comme un lecteur face à un bouquin, face à un livre, un roman, n'importe quoi. Si je suis ému à la fin, si quelque chose m'a touché vraiment. C'est déjà bon signe. Donc voilà, si le sujet m'interpelle, le personnage, peut-être parfois juste un personnage, parce que je déteste pas faire des petits rôles, même pour un jour, si la scène est belle et le personnage est amusant, et que le réalisateur m'interpelle et m'amuse, moi ça me dérange pas de partir pour 2 jours faire juste une petite scène.
Il faut quoi ? Il faut surtout trouver quelque chose qu'on n'a jamais
forme.
Fait.
Ah. Bah ça forme, et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeant, donc moi je me lasse pas. Et je me lasse pas, quand j'ai du plaisir, je sens qu'il y a du plaisir à prendre, j'y vais.
Tom,
vous allez toujours au bout des scénarios que vous recevez, Catherine, Olivier, ou des fois au bout de 3 pages, oui, oh là là, on va s'arrêter là.
Bah, petit à petit, enfin moi j'apprends, on apprend à lire petit à petit. C'est vrai que des fois on voit que, on devine vers où ça va peut-être, voilà, on devine le ton que ça va, on devine ce qui va se passer, etc., le style, et des fois ça tombe des mains. Bah oui, bien sûr.
De bonheur, bien sûr.
Non, mais il faut chercher, quoi.
Sage-femme, donc, Catherine Fro, Catherine Deneuve, à l'affiche pour la première fois ensemble. Olivier Gourmet est notre invité aux côtés de Catherine Fro pour parler de ce film, de ce très bon film qui met aussi les projecteurs et la caméra sur ce métier, ce beau métier de sage-femme. Sophie Guillaume, merci de venir à notre micro. Nous avions envie, vous qui êtes encore en exercice et dans un hôpital parisien, non, parce qu'on a l'impression que vous pouvez devenir conseillère en sage-femme maintenant, tellement vous répondez aux questions des médias, et mais vous le faites bien, c'est pour ça qu'on voulait avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes reconnue d'ailleurs dans ce film que vous avez vu ?
Ce film présente évidemment la profession de sage-femme, mais pas que. Oui, c'est sage-femme qu'on n'a pas l'habitude de voir, des femmes engagées, des femmes avec plein d'humanisme, le don de soi, et puis ces praticiennes, ces techniciennes du moment de la naissance.
Tout à l'heure, j'ai dit que c'était un métier qui n'était pas extraordinairement reconnu par notre société. Quel est en moyenne le salaire d'une sage-femme ? Ça tourne autour des 1 800, 2 000 euros ?
Alors, une sage-femme débute à 2 000 euros brut. Elle termine sa carrière à 3 800 dans la fonction publique hospitalière. C'est, en général, c'est partout pareil. Et dans l'exercice libéral, par contre, c'est beaucoup plus difficile.
Vous mettez au monde des enfants. Vous devez aussi, dans votre métier, sauver des vies. C'est fréquent les situations d'urgence, comme on peut le voir justement dans le film, ou c'est un faible pourcentage aujourd'hui parce que la médecine a fait des progrès.
Bien évidemment, la médecine a fait des progrès, mais sage-femme, c'est la vie et la mort, parce que il y a tout ce moment merveilleux, magique de la naissance. D'ailleurs, j'ai adoré quand Catherine Fro parle de cette naissance qu'elle a vue. Moi, après 30 ans, je suis toujours fascinée. Ouais, je trouve que c'est de la magie. Et puis, travailler aussi dans des situations difficiles, d'urgence. Et malheureusement, oui, on a des enfants qui meurent. On a des femmes qui meurent encore en France, très peu. Mais si on peut pas, oui, on peut pas ne pas y penser dans notre métier.
Il y a aussi le problème des maternités qui ferment. Il y a encore beaucoup de maternités qui ferment en 2017 en France.
Bah, je sais pas ce que vont faire nos politiques là, mais dans les prévisions, bah,
eux non plus,
oui.
Ça fait encore ce qu'ils vont faire. Bon, d'accord. Pour l'instant, ils promettent.
Dans tous les cas, oui, il y a des prévisions de fermeture de petites maternités. Alors il y a le rendement, mais c'est très compliqué parce qu'il y a aussi assurer de la sécurité et avoir des équipes, parce que même si c'est rare, on doit toujours prévoir l'urgence, donc il faut des obstétriciens, des anesthésistes, des pédiatres, et quand on est dans des petites structures, ces professionnels s'y retrouvent pas non plus, ils préfèrent travailler dans des grandes équipes. Donc c'est complexe.
Mais pourquoi ? C'est parce que ça coûte trop cher ? Pourquoi on ferme ces maternités de proximité où on n'est pas obligé, comme disait tout à l'heure Catherine Fro, de faire des kilomètres pour aller naître ?
C'est pour
puis
ça
en plus, il y a un autre truc, c'est qu'on est dans une commune qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vie comme étant né à tel endroit alors que...
Oui, mais ça a toujours été, si ce n'est de naître à domicile. Ça, c'est encore un autre débat. Ça coûte cher d'avoir toute une équipe compétente quand elle va intervenir... 5-6 fois par mois. Mais c'est pas que ça, parce que ces professionnels de l'expertise, du risque, ils ont besoin aussi de pratiquer régulièrement pour être efficaces le jour J.
D'accord.
Donc c'est pour ça que maintenant on parle de groupement hospitalier, et c'est peut-être une manière de garder des petites maternités dans des petites villes, et que les professionnels seront rattachés à des grosses structures, puis viendront prendre des gardes de temps en temps. Il y a des perspectives pour pouvoir préserver cette qualité et cet humanisme dont on a besoin au cours de la naissance.
Et il y a de plus en plus d'hommes qui deviennent sages-femmes ?
Non, il n'y en a pas de plus en plus.
Il
y en a. La profession a été ouverte aux hommes en 1983. On a eu 1 à 2% d'hommes et on est toujours à 1 ou 2% d'hommes dans la profession. Ça n'a pas fait émerger des vocations.
Est-ce qu'il y a des patientes qui peuvent refuser que ce soit un homme qui les accouche ?
Ça arrive comme elle refuse un obstétricien homme certaines fois.
D'accord. Vous êtes présidente, je ne l'ai pas dit, pardon, du Collège National des Sages-Femmes de France. Et vous avez vécu la même émotion que nous alors que vous êtes sage-femme en voyant ce film.
Oui.
Tellement il est...
Oui, et puis alors je suis peut-être aussi la sage-femme de plus de 50 ans. Et je pense que dans ce film, c'est aussi un bel hommage aux femmes. Mm-hmm. au-delà des sages-femmes. Et comme le titre, vous l'avez dit, hein, la profession, c'est sages-femmes tirées. Oui. Là, il n'y en a pas. Donc, je crois qu'il y a aussi toute cette quête de sens, qu'on a à un certain moment de sa vie et qu'on retrouve là. Et sages-femmes, on l'est à 100% dans nos gardes et puis à la maison. Et ça aussi, c'est bien montré dans le film.
Merci d'avoir pris le temps, sur votre ample du temps, de venir nous parler, Sophie Guillaume. On le voit, Daniel, le métier de sage-femme est un métier qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'on voulait rendre hommage ce matin avec Sophie. Et en parlant de ce film qu'on a adoré, remercier ces hommes et ces femmes qui donnent la vie. C'est un métier formidable, celui-là.
Ah, nom de Dieu ! Par le Saint-String de Bernadette Soubérot, une fois encore, l'inspiration divine est venue frapper votre cerveau gonflé et pétri de talent. Méritez que je vous note, monsieur Guy. 18 sur 20, allez hop, mention très bien. Enfin, 18 sur 20, c'est la note que j'aimerais vous mettre ce matin, si vous n'étiez pas laissé aller à tel sentimentalisme puéril et gluant. Car non, monsieur Guy, non. Comment cette période de crise immonde que nous traversons pouvez-vous encourager les naissances et remercier celles qui collaborent à l'éjection des gosses? Hein? Comment pouvez-vous? Comment osez-vous? Alors, je sais que la crise n'est pas vécue de la même façon dans tous les foyers. Je sais que vos 19 enfants légitimes, ainsi que vos 133 enfants naturels, sont à l'abri du besoin, protégés qu'ils sont par le plan épargne logement, qu'ils sont chacun à leur nom, qui contient 10 millions d'euros par tête. Je le sais. Un geste généreux de votre part, que vous ne faites que reproduire d'ailleurs. Vous-même étendez avec un pactole de 100 millions de dollars, débloquez vos 18 ans, cadeau de votre père, le flamboyant Hosni Moubarak. Mais, sachez que la crise n'est pas chose facile à vivre pour une grande partie de la population qui aujourd'hui voit l'arrivée d'un enfant comme une malédiction. Oui, une malédiction pour la famille qui va devoir se saigner aux quatre veines pour donner de quoi manger à ce parasite. Une malédiction aussi pour l'enfant qui, accablé par une succession de frustrations dues à la misère dans laquelle il grandira inexorablement, sera amené à aller voir un psy, s'il trouve de quoi le payer, ou plus simplement devenir un tueur en série pour calmer et canaliser sa haine de la société. Alors non, monsieur Guy, les sages-femmes ne sont pas à féliciter, encore moins à remercier. Une fois encore, je suis confus, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci d'être mort.
La bande originale, la deuxième partie, c'est avec Nagui. Hein, c'est sobre. Hein.
Oui, c'est sobre et rapide, contrairement à nous dans la première partie. Merci beaucoup, Laetitia Gaillet. Le journal est à 13h pile et Laetitia vous reviendra vous informer toute l'après-midi.
À l'heure.
Oui, à l'heure. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadoumoudadi.
Bonjour à tous.
Noam Zaoui. Daniel Morin,
bravo Daniel.
Tom Villa,
bonjour.
Et nos invités Catherine Froy et Olivier Gourmet. Dans un film où il y a également Catherine Deneuve, Quentin Dolmer, Mylène de Mongeau, totalement déjantée. Pauline Etienne est dans un tout petit rôle, comme un clin d'œil, Audrey Dana, qui fait une apparition. Mais vous disiez tout à l'heure, Olivier, même les petits rôles, même les petites séquences peuvent donner envie à des comédiens ou des comédiennes de l'incarner, comme Mylène de Mongeau aussi.
C'est ce qu'on disait là, pendant la pause, c'est un joli rôle. C'est intéressant, c'est amusant, c'est une scène, mais elle en fait quelque chose. Et
elle est dinguissime, elle est formidable.
Elle marque donc.
Ce film donc qui raconte l'histoire d'une sage-femme qui est dans un rythme d'horaire absolument dingue, parce qu'on a le sentiment que vous y êtes 22 heures par jour à la maternité, dans une maternité qui en plus va fermer ses portes. Elle ne sait pas trop si elle doit être militante contre la fermeture ou laisser faire, accepter d'être mutée ou au contraire refuser. Enfin bref, elle est à un virage dans sa vie, et dans ce virage, ressurgit du passé sa belle-mère, interprétée par Catherine Deneuve, qui revient, on sent qu'il y a encore des casseroles avec le passé, qu'il y a des choses à régler, ouais. Même si la belle-mère revient en disant « tout, j'avais envie de te revoir, tout va bien, tout est repartons à zéro, vous n'avez pas envie ».
Non, il y a un rejet parce que c'était la maîtresse de son père. Et donc, comme le père s'est suicidé, vous voyez, il y a quand même un traumatisme. Et voilà, et elle revient parce que...
Elle apprend pour fautive un tout petit peu d'ailleurs.
Oui. Non, mais il y a un espèce d'entremêlade de psychologie entre ces deux femmes qui est beau parce qu'elles sont tellement, elles n'ont tellement rien à voir l'une avec l'autre. Après, rentrer dans le détail, il faut le voir le film pour le ressentir.
Il faut le voir. Et
Catherine Deneuve incarne la féminité, c'est ça qui est beau. Et on voit ce rapport de la petite fille que vous avez été, qui a grandi avec elle, qui voit son parfum, son rouge à lèvres, qui détache les cheveux, qui commence à renouer avec son identité de femme.
Avec, avec Belle de Jour, plus qu'avec les deux modèles de Rochefort.
Puis c'est comme si c'était sa mère, quoi. Ouais. Ça parle de ça aussi. C'est qu'est-ce qui nous influence dans l'existence quand on grandit? Quelles sont les personnes qui restent, qui ont marqué?
Et d'ailleurs, le vouvoiement et le tutoiement, il y a un balai autour de ce vouvoiement et ce tutoiement. Et il y a une scène qui est absolument dingue entre vous. C'est la scène où vous êtes toutes les deux au café, qui est une scène d'écoute pour vous, qui sont les scènes sans doute les plus difficiles à jouer, et où Catherine passe d'un état à un autre. Elle finit la scène en larmes et elle est bouleversante dans cette scène. Et vous, et c'est ça moi qui me bluffe et qui me renverse, c'est que sur un soupir, sur un rythme, un regard, vous êtes juste parfaite. Sur une petite hésitation, vous voyez, je pense laquelle je veux parler d'une hésitation en particulier ou cette scène, et à la fin ça devient une scène de deux immenses comédiennes. C'est absolument c'est une scène clé en plus, parce que êtes-vous ou pas touché par l'émotion qui transporte Catherine Deneuve? Ouais. Ça peut être l'un des moments ou l'un des virages. Et puis après, l'autre rayon de soleil, c'est Olivier Gourmet, celui qu'on a, on a envie de prendre un coup avec lui, taper sur son épaule.
Boire un coup avec lui.
prendre un verre alors. D'accord. voir conduire son bahut aussi, parce que...
Vous avez passé le permis d'ailleurs ou pas?
Pour conduire le...
Non, je n'ai pas passé le permis, il n'y a pas besoin.
Après, c'est un tournage dangereux. Bah, d'accord.
Bon, c'est un tournage dangereux.
Sans assurance.
Si, il y a des assurances, rassurez-vous. Puis vous savez, le cinéma, on peut faire beaucoup de choses avec le cinéma, la tricherie du cinéma.
Et vous êtes un homme, un exemple pour les hommes, un homme qui respecte la femme et ses décisions.
C'est important de respecter les femmes, de respecter qui que ce soit d'ailleurs, parce que c'est
mort
que les femmes. Et le respect, je pense, est une des valeurs... essentiel.
Les plus importantes aujourd'hui. Ouais.
Oui, totalement d'accord. Vie en commun.
Totalement d'accord avec vous. Très bon film qui sort donc ce mercredi, et on vous encourage à le voir, avec Catherine Froy et Olivier Gourmet qui sont nos invités jusqu'à 12h30. On parlait de respect. Vous allez voir exactement. Voilà.
Tout
l'inverse. Ah, honte, ça te va bien. Merci Daniel Morin.
Voilà. Je ne vous en veux pas, monsieur Guy. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lundi 20 mars, n'ayons pas peur des mots.
C'est
aujourd'hui,
printemps.
C'est une journée grandiose. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit, en plus d'être l'entrée officielle dans le printemps, c'est aussi la journée mondiale du macaron. Oh, quelle joie, quelle fête, le macaron. S'il y a un gâteau qui méritait bien sa journée mondiale, c'est le macaron. Macaron, petite douceur hors de prix au parfum délicat qui fait le bonheur gustatif de tous ceux qui goûtent et la joie financière de tous ceux qui les font. Vive le macaron. Enfin bon, c'est pas que ça dans la tue non plus. Hein. Bien sûr, ce soir, le grand débat sur TF1, débat qui va réunir pendant plus de 3 heures les 5 principaux candidats à la présidentielle. Marine Le Pen, qui à l'heure où je vous parle, est en train de se préparer. Elle fait des pompes nues dans une chambre froide avec son coach autrichien, son coach Gunther le Barbare. François Fillon est en génuflexion dans sa cave, en train de se faire fouetter par Pénélope. Emmanuel Macron, de son côté, eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas seulement la journée mondiale du macaron, c'est aussi la journée mondiale sans viande. Pour fêter dignement l'événement, n'hésitez pas. Si vous passez à côté d'un restaurant et que vous voyez en terrasse quelqu'un qui mange une bonne grosse entrecôte, allez-y franco, prenez sa viande et balancez-la dans le caniveau. Il sera furieux, il vous mettra probablement son poing dans la gueule, mais vous aurez fait un geste et au fond, c'est ça qui compte. Enfin bon, il n'y a pas que ça dans l'actu. Hein. Alors le débat de ce soir, je disais, les candidats se préparent. Emmanuel Macron est en train de peaufiner sa technique de séduction qui a déjà envoûté 26% des Français. Ah, il s'inspire de ce qui se fait de mieux en la matière. Eh oui, le serpent du livre de la jungle. Jean-Luc Mélenchon, en compagnie de son prof de catch, révise ses techniques d'étranglement. Et enfin, Benoît Hamon, disons-le, aujourd'hui, 20 mars, c'est aussi la journée mondiale du moineau. Le moineau, petit oiseau espiègle qui peuple aussi bien nos villes que nos campagnes. Pour lui rendre hommage, n'hésitez pas à en piéger 4 ou 5 sur votre balcon ou votre jardin et dégustez-les grillés ou rôtis. Alors bien sûr, tous ceux qui fêtent la journée mondiale sans viande ne seront pas d'accord, mais à cela, je dirais simplement, ta gueule. Mais il n'y a pas que ça dans l'actu. Le débat de ce soir, bien sûr, n'oublions pas Benoît Hamon. Benoît... Oyez, oyez, aujourd'hui, que personne n'oublie, c'est la journée mondiale de la francophonie. Journée du bien par les Français, du joli par les Français. Bref, une journée qui exclut de fait les Québécois et leur accent pourri.
Illustration. Un pays tendance pour faire le plein d'énergie.
Bah, vous voyez ce que je vous disais. Hein, voilà. Bon, dans l'actu, il y a Benoît Hamon qui se prépare pour ce soir. Ce soir, je vous rappelle que c'est le grand débat des 5 candidats à la prochaine présidentielle. Alors, Benoît Hamon, lui, il se prépare. Attention, aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur. Et on fait quoi pour la journée mondiale du bonheur? Eh ben, on est heureux. Oui, on est heureux. Et si, par malheur, on a des problèmes du style chômage, déprime, angoisse, eh ben, on fait un petit effort, on prend sur soi et on joue le jeu. Le malheur de ceux qui ne font aucun effort pour se prendre en main ne doit pas venir en tâcher une belle journée comme celle d'aujourd'hui. Merde. Alors, ce Benoît Hamon. On va savoir comment se prépare, oui ou non? Bah, Benoît Hamon, alors je vous parle, sachez qu'il est en train de... je m'adresse aujourd'hui à tous ceux qui ont les dents jaunes et qui puent de la gueule. Oui, les amis, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des soins bucco-dentaires. Allez, on fait un effort. Une fois dans l'année, se brosser les dents, c'est pas la fin du monde. Je sais que c'est agréable au réveil d'avoir ce petit arrière-goût de blanquette de la veille. Mais bon, c'est pas idéal pour vos ratiches. Allez, courage, on brosse les dents et demain, retour à la normale avec une haleine de dauphin. Et Benoît Hamon dans tout ça. Eh ben, on n'a plus le temps, on verra ce soir.
La bande originale, Maggie, sur France Inter.
Vous allez retrouver Jean-Pierre Bacri et Olivier Gourmet dans un film, on en parlait tout à l'heure pour Un air de famille de Jean-Pierre Bacri, mais là vous serez à l'affiche de Grand Froid. Vous l'avez déjà tourné ou c'est en tournage?
Non, c'est tourné depuis l'année dernière, au mois de février. Donc,
quel est votre personnage?
Post-production. C'est une entreprise de pompes funèbres. Moi, je suis le patron de cette entreprise de pompes funèbres et j'ai deux employés, dont Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont, qui sont un peu des bras cassés. C'est une comédie noire,
d'accord, assez grinçante. Très bien. Et avant, il y aura eu En amont du fleuve, un film avec Sergi Lopez qui sortira le 3 mai.
Oui.
Ça, c'est pour vos projets. Et Catherine, pour vous, qu'est-ce que nous allons voir au théâtre?
Est-ce que Ben, je suis en tournée en ce moment dans toute la France avec Fleur de Cactus.
C'est formidable.
Avec Michel Faux, notamment. Mmh. Et voilà, c'est un beau succès, j'avoue. On est dans des magnifiques salles, parfois très grandes. Et on se trimballe, voilà, on passe de ville en ville. Il y a 4 mois de tournée.
4 mois de tournée, super. Allez voir Fleur de Cactus, hein, c'est vraiment, on en avait beaucoup parlé ici, mais
on le reprend en fait au théâtre Antoine.
C'est vrai, ça revient à la rentrée.
Non, pas à la rentrée. Juste après la tournée du 16 mai au 1er juillet, on reprend au théâtre Antoine.
Parfait, très bonne nouvelle. Il faut absolument voir cette pièce. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadour-Boulabi pour Catherine Faux et Olivier Gourmet.
Catherine, Olivier, je vous sors de la promo. Merci, mon Daniel. Un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux nous connaître. Et je commence par un son pour vous, Olivier.
Code de qui n'en veut, le rendez-vous des jeunes qui n'en veut. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, c'est mon gars Bruno Locher. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu?
Bruno Locher.
Et tu cherches un emploi
de militaire.
Militaire!
Oui, militaire!
Ah, nom de Dieu! Et alors, quelles sont tes motivations?
Ma motivation première, c'est surtout pour faire plaisir à une de mes tantes.
Ah, c'est une motivation sentimentale.
Un extrait du mythique 3615 qui n'en veut des Deschiens. Une troupe que vous auriez pu rejoindre, Olivier Gourmet, si Jérôme Deschamps vous avait proposé un rôle de femme.
Moi, j'ai fait un film. Un de mes premiers films en France, de Roger Kahn, qui s'appelle « Je suis vivante et je vous aime », où Jérôme Deschamps avait le rôle principal. Et à l'époque, il m'avait proposé de rejoindre la troupe. Et j'ai hésité. Et puis à un moment donné, je dis « Écoute, si je rejoins la troupe, c'est vraiment pour être une femme. J'aimerais donner l'illusion, mais vraiment. » Donc que les gens sachent pas du tout que...
Même pas votre nom générique.
Non, ouais. Pas mon nom, rien. Tiens, c'est qui cette femme? C'est qui cette actrice? Voilà, j'ai hésité. Et puis finalement, je me suis dit non, parce que les Deschiens, j'adorais. J'étais fan des Deschiens. Je regardais dès que je pouvais, quand je pouvais. Et je me suis dit non, parce que ça va m'enfermer dans quelque chose et je vais passer à côté d'autre chose. Donc voilà, j'ai fini par décliner l'invitation.
Et vous regrettez?
Non, parce que voilà, je suis curieux, j'ai fait plein de rencontres et j'étais à l'époque, justement, je quittais le théâtre et j'avais envie de découvrir d'autres choses, de quitter la famille, justement, du théâtre pour aller vers d'autres horizons, d'autres univers, découvrir, voilà, la culture en général. Et donc j'ai bien fait, oui, même si j'aurais aimé faire une guest star, entre guillemets, y passer un mois, deux mois.
Et cette envie d'incarner une femme au cinéma, elle est encore présente?
Elle est toujours présente, oui, j'aimerais ça. Ouais.
Il y a d'autres envies étonnantes comme ça, parce que c'est peu courant. C'est Michel Faux, par exemple, pour faire référence à lui.
En fait, c'est un vieux. C'est comme un désir d'acteur, ça, cette histoire d'être en femme. Il y en a quand même quelques-uns.
Ouais, comme Tootsie, oui, bien sûr. Dustin
Hoffman,
Robin Williams.
C'est... Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est par défi, oui.
Ah ouais, c'est génial.
Décortiquer. Mais ça ne serait pas du tout. Ça serait. Oui, parce que Tootsie, il se déguise en femme. Mais là, ça serait vraiment. Je suis comédienne.
Comme Catherine et Liliane, un peu. C'est pas.
Voilà, comme Catherine et Liliane, si vous voulez. Mais c'est. Voilà. On ne sache pas, on puisse pas dire, mais non, c'est une femme, c'est pas Olivier Gourmet, c'est pas un homme, c'est pas. Il faut même pas qu'on en parle dans les journaux après.
Et vous
nouvelle prendrez... identité.
C'est mal barré.
Et vous prendriez qui comme.
Là maintenant, ben ça va savoir.
On va vous repérer.
Olivia Gourmet.
Bien sûr.
Quel drôle de nom. Est-ce que madame est au courant
de mes fantasmes.
Et vous prendriez qui comme incarnation, comme référence de la femme, celle que vous avez envie, vous, de devenir au cinéma. Quelle comédienne
vous... Gina Rowlands.
Ah, mais t'as qu'à faire, voilà. Ben oui, référence.
Oui, depuis Cassavetes, Gina Rowlands, c'est une vieille histoire d'amour.
T'as fait des essais de en photo, non? T'as pas déjà fait des essais? Tu t'es pas amusé à te préparer?
Si, si.
Ah, ça doit être bien. Ça doit être beau, ça. À voir. Et alors, vous avez des traits qui pourraient...
Ressembler à Gina Rowlands? Non. Regardez ma gueule. Vous auriez vite compris, je sais
non,
pas.
Non, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu, Gina
Rowlands. Mais là, j'en fais trop. Ça.
Ah, là,
oui. Non, mais je me
ça prie, tu peux t'aider. Je préfère Folkoche. La nouvelle version de Folkoche avec. Je sais qui cette actrice terrifiante. Mais elle est énorme.
Mais je suis sûr que ça marcherait du tonnerre. Mais je suis sûr que ça serait extra.
On poursuit avec vous, Catherine.
Si on les invite à Noël.
Comment ça, on va passer Noël chez tes parents?
On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa.
Il y aura Jackie Chan et Arafat.
Il y aura Kadhafi, Enrico Macias.
Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek.
Surtout. Un mot sur l'équipe de France de foot.
C'est un extrait de la bande-annonce de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec notamment Chantal Lobby. Et je crois savoir que c'est un rôle qui vous avait été proposé.
Oui, oui, tout à fait. Il en avait été question, oui. Et puis, j'ai pas pu le faire. Et puis, voilà. Enfin, c'était une période où je...
Pas pu ou pas voulu?
Pas... Non, parce que j'aimais le film, moi. J'ai vraiment ri. J'étais voir le film avec ma fille. J'ai beaucoup aimé.
Donc là, c'est un problème d'agenda?
C'était plutôt un problème d'agenda, voilà. Puis c'est l'époque où je venais de recevoir Marguerite, Marguerite allait se faire. Enfin, je pouvais pas tout faire. Puis voilà, personnellement, j'avais besoin. C'est vraiment un moment où pendant 2 ans et demi, j'ai pas tourné.
Et vous avez besoin d'alterner les genres dans les films, les rôles que vous choisissez en se disant, ben là, il va y avoir trop de sorties où je suis dans des comédies.
Je calcule pas vraiment, non. Mais quand même un peu. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime pas être enfermée dans un registre. Ça m'étouffe. Je vois pas comment il y a des acteurs de comédie, des acteurs de tragédie. Non, pour moi, tout se mêle, quoi. C'est comme la vie, tout se mêle. Et j'aime bien, voilà. Effectivement, brouiller un peu les pistes parce que c'est ça qui me semble juste.
Et qu'est-ce qui vous ferait rêver? Incarner quel genre de personnage?
Mince, l'autre jour j'en avais un, mais j'ai oublié. Des fois je cherche, mais je ne trouve pas. Oh, je me souviens plus, zut, et j'en avais un bien.
Faut prendre des notes.
Mais un passage de roman, de conte, un personnage légendaire? Un biopic?
Non, je pensais à un personnage double. Quelqu'un de jouer deux personnes en une. Enfin, je sais pas comment dire.
Un personnage
comme ça a été fait par Michel Simon.
Un Dr. Jekyll et Mr. Hyde ou
par exemple.
Ou un comédien belge qui préfère une femme.
Mais c'est ça le truc de l'acteur, c'est ça. Qu'est-ce qui nous attire, c'est tout ça. C'est cette double chose-là. Donc un personnage double. Ça, je ne me déplairais pas.
Et vous, Olivier, vous avez aussi refusé un rôle qui avait été écrit pour vous.
Oh, mon Dieu.
Harry.
Catastrophe, ça.
Un ami qui vous veut du bien.
Oui.
Harry, ça devait être vous, Olivier Gourmet.
Oui.
Ah ouais, c'est vrai,
oui,
vous
Dominique
bien, là,
Moll m'a proposé, je jouais au théâtre à l'époque, il est venu jusqu'à Bruxelles, m'a proposé le rôle, le scénario, je le lis, je trouve ça formidable. Et puis j'ai eu la connerie de lui dire, mais c'est bizarre que t'aies pensé à moi pour ce rôle. Moi, je vois quelqu'un de plus latin et de plus Latin lover et avec beaucoup plus de séduction.
Ah, vous avez fait le directeur de casting pour lui.
Oui, et il s'est mis à douter.
Oh non.
Et du coup, il a fait un casting. Je l'ai eu dans l'os, pour pas dire dans...
Incroyable.
Alors c'est vrai que depuis vous dites oui plus facilement.
Ah ben maintenant, quand un rôle est écrit pour moi, je dis c'est formidable, c'est tout à fait moi.
C'est tellement moi.
Je comprends très bien que...
On apprécie la folle du désert qui est en campagne.
L'honnêteté comme quoi, parfois ça paye pas toujours.
Est-ce que vous pensez à écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui...
Il y a des moments où je dis oui, il y a des moments où je dis non. J'ai une envie depuis longtemps d'adapter un roman, là, mais il y a quelqu'un qui m'a piqué l'idée, là, que j'ai rencontré dernièrement par hasard. Un livre que j'adore qui s'appelle Le Seigneur des Porcheries, d'un jeune auteur américain qui s'est malheureusement suicidé, qui s'appelait Egoff. C'est la saga d'un jeune garçon qui va finir par créer le premier syndicat des éboueurs aux États-Unis et le transposer ici en Europe sur une question de respect, sur le respect, sur la différence.
Et vous, Catherine, d'écrire ou de diriger d'ailleurs,
pas vraiment,
de réaliser.
Ça me, j'y pense des fois, mais j'ai pas le temps.
Il faut quoi pour franchir le pas dans ces cas-là?
Moi, j'arrive. C'est vraiment autant j'aime tout ce qui est artistique, le dessin, la musique, mais écrire, ça me paraît complexe. Voilà. Puis il y a des gens qui savent très bien le faire. C'est difficile. Mais bon, en France, il y a beaucoup d'acteurs formidables qui s'y sont collés, qui l'ont fait très bien. Que ce soit Zabou Breitman, il y a eu vraiment plein de très belles expériences. Jean-Pierre Darroussin avait fait un très beau film. Mais non. Une histoire d'énergie, de temps.
La scène d'amour entre vous, elle a été difficile?
Oh, vite fait, là, hop.
Je suis pas à l'aise, moi, avec ça. Et j'avais dit à Martin, dès notre première rencontre au restaurant, j'avais dit, tu sais, les scènes d'amour et moi, c'est pas ma tasse de thé.
Mais moi, je...
Et Catherine a tout de suite embrayé en disant, moi non plus. Il a dit, mais vous inquiétez pas, moi, je suis pas pour filmer.
Je vous ai jamais simple. Vu autant dénudé.
On voit simple. Pas grand-chose, franchement.
Ah, si, quand même.
On voit vaguement un tout petit début, là.
Bah oui, bah quand même. J'étais choqué. D'accord.
Par rapport aux accouchements, c'est rien.
Honnêtement, Catherine, quelquefois c'était gênant. Moi, j'ai...
Non, elle est belle comme tout.
Mais j'ai regardé ailleurs. Par pudeur.
Il y a beaucoup de gens qui mettent sur pause à ce moment-là.
Ah, il y en a qui ont déjà des durs.
Qui mettront sur pause. Je suis vraiment en avance.
Mais moi, j'aime pas les scènes d'amour. J'aime pas en général. Regardez. Moi, je regarde mes pieds dans ce moment-là. J'attends que ça passe. Ça dure trop longtemps. Mais là, elle dure pas longtemps du tout.
C'est très court.
C'est des flashs. C'est beau.
Et puis elles sont drôles. Et puis voilà, les moments où vous vous enlacez, c'est plutôt drôle. Il y a une petite maladresse de votre personnage. Voilà, il y a quelque chose d'assez rafraîchissant. Je finis avec un cadeau pour chacun d'entre vous. Pour vous, Catherine, une bande dessinée, c'est Le Postello de Richesse et Vinox, c'est aux éditions Grand Angle. C'est une BD que j'adore parce que c'est une enquête policière dans le monde de l'art. C'est-à-dire qu'il y a le personnage principal achète comme ça une toile sur un marché aux puces et il se rend compte que cette toile sera peut-être un modello, c'est-à-dire un travail préparatoire d'une œuvre. Là, il s'agit de deux gars. Et en fait, il se rend compte que c'est un postello. Mais comment faire en sorte de prouver l'existence et la véracité de cette toile-là? Donc, c'est cette enquête-là. Merci. Qui est là. Et pour vous, Olivier, c'est Groenland Vertigo de Tancrel aux éditions Casterman. C'est un hommage à Hergé. Je me suis dit que ça allait vous plaire. Et Tancrel, en fait, a adapté les textes d'un aventurier danois. Et il s'est embarqué en 2011 avec lui pendant 3 semaines, pendant une expédition dans les fjords au nord-est du Groenland. Et il nous raconte son aventure et c'est très très drôle et c'est très très beau et assez poétique.
Merci Leïla, merci mille fois Catherine Fro, Olivier Gourmet d'être venu. Et Sage Femme est un très bon film qui sort ce mercredi au cinéma. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Olivier Gourmet va être ravi parce qu'on passe la semaine en Belgique, figurez-vous.
Très bien.
Et on va même aller tout à l'heure du côté de Namur.
C'est ça. Ah
ouais. Ouais, ouais.
Bonne émission.
Rien ça. Ah non, c'est gros moyen cette semaine.
Je suis né à Namur.
Ouais, je sais.
France Inter nationale.
Salut les amis.